Aymeric Metz, bonjour.
Bonjour.
Directeur des services de l'éducation nationale dans les Hautes-Alpes. Une rentrée qui s'est déroulée ce lundi partout en France. Une rentrée endeuillée au niveau national après le suicide d'une directrice d'école dans le Cantal, harcelée sur son homosexualité. La députée des Hautes-Alpes, Marie-Josée Allemand, a réagi quant à ce fait. Selon elle, cela témoigne, je la cite, d'une violence dans notre société. Et pour vous ?
Pour nous, c'est tout d'abord beaucoup de tristesse et une pensée pour la famille et les collègues de cette enseignante, et un rappel à ce que nous faisons chaque jour, c'est-à-dire avoir une vigilance toujours partagée et constante sur les conditions de travail de nos agents, qu'ils soient enseignants, psychologues d'éducation nationale, assistants d'éducation.
Qu'est-ce qui est mis en place justement pour les professeurs ?
Alors déjà, il y a une vigilance au quotidien, c'est-à-dire que comme à chaque fois, quand on est dans un collège ou un lycée, on a un chef d'établissement qui est le premier interlocuteur. Quand on est dans le premier degré, nous avons un inspecteur ou une inspectrice de circonscription qui est là aussi le premier interlocuteur. Et à chaque signal ou chaque inquiétude qu'il peut y avoir, il y a une prise en compte qui peut aller jusqu'à de la protection fonctionnelle, qui peut aller bien sûr sur un accompagnement en fonction du besoin et de la difficulté que le personnel a rencontré.
Pour cette rentrée, certains syndicats de l'Académie d'Aix-Marseille affichaient une crainte, notamment par rapport au remplacement des professeurs. Est-ce que c'est une crainte légitime dans les Hautes-Alpes ?
Alors, dans les Hautes-Alpes, la situation dans les écoles, pour commencer par elles, est tout à fait sereine, puisque nous avons l'ensemble de nos professeurs titulaires qui sont en poste sur chacune des classes. Et nous avons pu renforcer le remplacement à cette rentrée, donc c'est une bonne chose. Et donc nous serons en capacité de remplacer les enseignants qui seraient amenés à être absents pour des congés maladie, par exemple.
Dans les écoles.
Dans les écoles notamment, dans les collèges et les lycées. Alors la gestion se fait au niveau académique, donc c'est un tout petit peu plus complexe à organiser. Mais pour l'instant, nous sommes tout à fait également dans de bonnes conditions. Et puis je rappelle que nous avons un poste d'enseignant en plus dans le premier degré et un poste en plus dans le second degré, alors même que nous perdons des élèves. Donc,
ma question, les effectifs, 220 élèves en moins entre primaire, collège et lycée, des effectifs en prof maintenue, vous l'avez dit même, au-delà, hein, qui augmentent. Pendant combien de temps on va pouvoir tenir avec ce rythme-là, c'est-à-dire perdre des élèves, mais en même temps mettre plus de profs, parce que mettre plus de profs, ça coûte aussi. Donc pendant combien de temps on va pouvoir tenir ?
Bien sûr, alors il y a des arbitrages budgétaires qui relèvent du niveau national et qui ensuite se traduisent par des créations ou non de postes supplémentaires. Jusqu'à présent, vous avez raison de le souligner, nous en avons bénéficié dans les Hautes-Alpes, puisqu'il y a aussi une vigilance toute particulière de Monsieur le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille pour la ruralité, et donc de soutenir la ruralité qui a ses particularités, et notamment le besoin de mailler le territoire par des petites écoles qui ont un coût entre guillemets un peu plus important. Et donc nous continuons dans cette dynamique, mais surtout nous devons réfléchir ensemble, et c'est tout l'objet du travail que je vais mener avec les élus et les maires des communes dans les semaines à venir. Nous travaillons depuis plusieurs mois maintenant avec les associations de maires sur la question du devenir des écoles dans notre territoire. Comment fait-on une belle école ? Comment continuons-nous à faire une école de qualité ?
Parce que c'est étroitement lié à cette question. On l'a entendu hier, hein, lors de la visite du recteur Benoît Delaunay du côté de Josier. Il a été mis en avant les services qui sont mis en place pour la population. Qui dit service dit aussi nouveaux habitants. Si ça n'est pas mis en place, c'est l'école qui est mise en danger, qu'on soit très clair. Est-ce qu'il y a des secteurs sous tension dans les Hautes-Alpes qui sont déjà identifiés ?
La démographie globale dans les Hautes-Alpes, nous le savons, est fragile scolairement, puisque nous perdons donc 200 élèves à cette rentrée dans les écoles. Et c'est une constante, même une accélération probablement dans les années à venir, au regard de la natalité en France et de l'attractivité du territoire. Mais ce qui nous permet d'apporter des réponses, c'est un travail collaboratif, comme je le disais, avec les élus, avec les autres services de l'État. Nous travaillons beaucoup avec la Caisse commune de sécurité sociale, par exemple, ou avec les services de la préfecture, pour que sur un territoire, il y ait une offre scolaire, mais pas que scolaire, car nous le savons, les familles attendent une offre complémentaire, à savoir du périscolaire, la cantine, par exemple, la garderie du matin et du soir, mais aussi la proximité, par exemple, de l'orthophoniste, de l'ergothérapeute. Et pour arriver à travailler ensemble sur ces éléments, nous sommes donc en lien à étroit avec l'ARS, avec tous les partenaires que je viens d'évoquer, pour que nous contribuions collectivement à faire une offre éducative de territoire. Et nous avons par exemple, sur le GIES 3 Kera, signé une convention dans le cadre d'un territoire éducatif rural qui prend en compte tous ces aspects, éducation, jeunesse, santé, pour permettre une offre de formation complète.
Vous savez, quand on dit aux auditeurs des conventions, des réunions, des discussions, tout de suite se disent « oui, bon, alors en fait, il n'y a pas grand-chose qui est fait à part se voir autour d'un café et en discuter concrètement, comment on garde des élèves, comment on fait venir de nouveaux élèves et de nouvelles familles ? C'est surtout ça la question.
Alors ça, c'est une question d'aménagement du territoire, effectivement, qui comprend des questions de logement, qui comprend des questions d'emploi, hein, qui sont bien évidemment au-delà des questions éducatives. Mais pour revenir à la convention, quand on signe une convention, c'est des euros que l'on met sur le tapis. Ce sont des associations qui en bénéficient pour compléter l'offre, par exemple permettre de développer des compétences sur le savoir rouler à vélo, ou de permettre de mettre des bus à disposition des élèves pour leur permettre d'avoir plus d'accès à la culture, à la piscine. Et tout ça, c'est une réalité que les enfants du Kera notamment peuvent vivre, mais c'est vrai sur d'autres territoires sur lesquels nous sommes particulièrement attentifs pour que justement il y ait la même réussite et la même possibilité pour un enfant des Hautes-Alpes. Et je crois l'avoir déjà dit à votre micro et je le redis aujourd'hui, un enfant des Hautes-Alpes a un parcours de la maternelle jusqu'au baccalauréat qui est très riche et c'est grâce à ce travail collaboratif que nous y arrivons.
Vous avez parlé de logement. La crise du logement, on en parle beaucoup dans les Hautes-Alpes. Cette crise, il faut la craindre en matière d'éducation.
Cette crise, il faut la prendre en compte puisqu'elle peut toucher d'une part les familles. Si vous n'avez pas la capacité d'acquérir un logement, vous ne venez pas vous installer avec vos enfants dans les Hautes-Alpes. Et ça fait des enfants en moins dans les écoles, bien sûr. Et puis, c'est également pour nos personnels, puisque nos enseignants, nos assistants d'éducation, nos AESH ont aussi besoin de logements s'ils veulent venir s'installer dans les Hautes-Alpes. Donc c'est une question que nous travaillons aussi en lien avec les services de la préfecture et les collectivités.
Vous parliez de continuité dans l'enseignement. On peut parler de continuité pour les enfants porteurs de handicap dans les Hautes-Alpes ?
Bien sûr, les enfants qui sont porteurs de handicap sont tout particulièrement accompagnés. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est la création d'un nouveau dispositif d'ULIS, Unité Locale d'Inclusion Scolaire, sur le collège de Vennes, ce qui fait que nous avons maillé pratiquement désormais tous les collèges du territoire pour permettre à ces familles justement d'être en continuité, de ne pas avoir à aller jusqu'à Gap, ce qu'ils faisaient actuellement. Nous avons réussi à trouver les moyens et les personnels nécessaires pour ouvrir cette unité localement dans le sud du département.
Il faudra que ça aille au lycée après.
Bien sûr, mais les ULIS sont déjà en place sur les quatre lycées professionnels du département. Et donc, les enfants peuvent être accompagnés par ces dispositifs s'ils sont notifiés par la maison départementale des personnes handicapées. Et deuxième dispositif, là, qui est encore plus large, qui touche les enfants en situation de handicap, mais pas que, c'est la mise en place d'un pôle qu'on appelle PASS, voilà, un pôle d'accès à la scolarisation, qui permet de faire une porte d'entrée. Et c'est une expérimentation que nous menons sur le Champsaur cette année. Nous avons ouvert ce dispositif en partenariat avec l'ARS et donc avec les PEP qui sont les partenaires qui ont été désignés pour avoir un binôme qui va être en contact avec les familles pour être la première réponse, la première entrée de toutes celles et ceux qui s'inquiètent pour la scolarité de leur enfant en raison de leur handicap ou de difficultés dont ils n'arrivent pas encore à comprendre la raison. Et cette porte d'entrée qui est donc installée physiquement au collège de Saint-Bonnet-en-Champsaur, elle permet ensuite de déployer toutes les réponses, qu'il soit vers l'ergothérapeute, vers l'enseignant spécialisé ou non, pour trouver des réponses aux enfants. Donc c'est encore de nouveaux moyens mis à disposition des enfants sur ce territoire de manière expérimentale et qui ont vocation à s'étendre dans tout le département.
Oui, c'est une forme de guichet unique.
Exactement.
Dernière question, les JO 2030, qu'est-ce qui va changer pour l'enseignement dans les Hautes-Alpes ?
Beaucoup de choses, bien sûr, puisque déjà 2030...
Vous y préparez.
Oui, nous avons déjà eu plusieurs réunions avec les acteurs sportifs, avec les acteurs de l'économie, de l'emploi, de la formation, puisque tout ceci couvre beaucoup d'éléments. Bien sûr, nous voulons des médaillés, nous y contribuons par le fait que nous développons, notamment avec la Fédération française de ski, des pôles d'excellence qui permettent aux jeunes actuellement en collège et en lycée de développer des doubles parcours, leur permettant à la fois de réussir leurs études et de pouvoir... potentiellement rapporter des médailles à la France, et nous le souhaitons, mais également dans le cadre des formations, par exemple sur l'hôtellerie, où nous travaillons en lien avec la CCI, avec tous les acteurs, pour réfléchir à quelle offre complémentaire nous développons pour que nous puissions avoir plus de personnel pour accueillir évidemment tous les touristes, les visiteurs qui viendront lors de ces JO.
Merci beaucoup Aymeric Metz d'avoir été avec nous. Je rappelle, directeur des services de l'éducation nationale dans les Hautes-Alpes.